RCF. Bonjour, très fidèles auditeurs, auditrices de RCF et de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry avec Agora Défense dans le cadre du Berry se raconte. Nous terminons aujourd'hui notre trilogie sur la guerre de 1870 avec la guerre qui va se poursuivre en 1871 et aussi les conséquences de cette guerre de 1870-1871. Pour éclairer cette perspective, nous accueillons Claude Vigoureux, directeur de l'ONAC victime de guerre du Cher, fin connaisseur de cette période peu connue de notre histoire. Bonjour cher monsieur Vigoureux.
Bonjour.
Alors, nous avons notre dernière émission, nous a laissé sur une triste défaite. C'est là, Napoléon III est prisonnier à Sedan, mais la guerre se poursuit.
Alors, le récit que nous avons partagé ensemble a prouvé que le piège créé par le chancelier de Prusse Bismarck a fonctionné. La France est tombée dans le piège. C'est-à-dire que nous avons déclaré la guerre sans avoir été préparés et que ceux qui nous y ont poussé, eux, s'y étaient très bien préparés. Lorsque Napoléon III donc rend son épée, il est fait prisonnier et Bismarck lui demande si c'est une capitulation ou un armistice. C'est important.
Oui.
Parce que la capitulation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'armée dans une position donnée qui se rend. Mais il n'y a pas d'incidence politique sur le pays, puisque la France avait encore d'autres troupes à ce moment-là. Napoléon III refuse. Il argue du fait qu'il y a une régente à Paris, c'est l'impératrice Eugénie, avec un gouvernement, et que donc ce n'est plus lui qu'il faut avoir comme interlocuteur. Lui, il rend son épée avec ses troupes présentes, c'est tout. Le lendemain, Paris apprend la nouvelle, et évidemment, on va rendre responsable Napoléon III donc de la défaite. Et donc, au corps législatif, au Palais Bourbon, on déclare la déchéance de la dynastie impériale. Et Gambetta va à l'hôtel de ville de Paris et déclare l'avènement de la Troisième République.
Oui.
Régime qui, on le sait, durera jusqu'en juin 1940. Régime, en revanche, qui périra de la même façon suite à une défaite militaire devant l'Allemagne et qui sera rendu responsable aussi de la défaite. C'est assez étonnant de voir qu'à 70 ans d'intervalle, le régime qui condamne l'Empire finira lui aussi condamné pour les mêmes motifs. En tout cas, la Troisième République est proclamée. On est persuadé que le changement de régime va amadouer les Prussiens. Mais pas du tout. De fait, dès le 17 septembre, les Prussiens sont sous les murs de Paris.
Oui.
Et Gambetta pense refaire le coup de la levée en masse de 1792,
oui,
en appelant à la nation à se soulever.
La patrie en danger.
La patrie en danger. Et donc, on mobilise tous les volontaires. N'oublions pas que l'Empire avait créé la garde mobile. Eh bien, on appelle la garde mobile, notamment dans le Cher.
Oui.
Il faut savoir que le Cher a vu la naissance du 2e régiment de garde mobile et qui part notamment délivrer Orléans, qui est menacé par les Prussiens. Alors, vous avez donc Paris qui est encerclé dès le 17 septembre. Il y a des tentatives de sortie de la capitale qui, elle, est bombardée par les Prussiens. Donc, notamment, il y a des combats à Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Nogent-sur-Marne, Bicêtre, Montrouge, Vent, Vissy-les-Moulineaux. Le seul moyen alors de transmettre des nouvelles entre Paris et la province, ce sont les pigeons voyageurs ou les montgolfières, qu'on appelait encore des ballons.
Oui.
Les ballons, justement, à un moment donné, le gouvernement décide de quitter Paris pour Tours.
Oui.
Et Gambetta vient s'installer à Tours. Et depuis Tours, en fait, on va reconstituer des armées. Trois armées, une armée du Nord, une armée de la Loire et une armée de l'Est.
Oui.
C'est dans l'armée de la Loire, d'ailleurs, que le 19e mobile du Cher va combattre. Il faut savoir que le 27 octobre 1870, Bazaine a capitulé à Metz, vu que la tentative de lui venir en aide a échoué, de MacMahon et de Napoléon III. Ces armées françaises ne parviennent pas pour autant à rétablir la situation, malgré le fait que, par exemple, en Bourgogne, on a le concours du général italien Garibaldi.
Oui, qui vient, oui.
Voilà, malgré le fait que les Français se battent avec courage, mais on n'arrive pas à endiguer le rouleau compresseur prussien. Petit à petit, on s'achemine vers un armistice.
Oui.
Mais c'est difficile parce que l'opinion publique a cru que on allait finir par ayant changé de régime.
Par gagner,
en reconstituant des armées, en faisant appel au courage et à l'esprit patriotique, mais on n'y parvient pas.
Terrible. Donc, malheureusement, nous allons être obligés de signer l'armistice.
Alors, il se trouve que Paris étant le siège de Paris, il faut se rappeler que ça a été quelque chose de terrible. Parce que donc Paris était bombardé, donc l'hiver s'est installé. Les habitants sont sous l'effet des bombardements, ne sont plus ravitaillés. Donc il faut se nourrir avec ce que l'on a. Et ce qui va marquer les esprits pour au moins une génération, c'est la nécessité pour les Parisiens de manger tout ce qu'ils trouvent. Alors on commence par les animaux du jardin des plantes. On a mangé de l'éléphant, on a mangé du serpent, enfin vous imaginez. Et puis on s'est mis à manger les chats, les chiens, les rats, les pigeons, tout ce qu'on pouvait. Donc en décembre, Paris est une ville moribonde.
Oui.
Donc le gouvernement comprend qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Et donc des pourparlers ont lieu à Ferrières, en Seine-et-Marne, dans le château des Rothschild. Et les Prussiens sont très exigeants et imposent à la France un démembrement partiel, donc avec la perte de l'Alsace et de la Lorraine, un impôt financier
considérable
et une occupation donc prussienne jusqu'à ce que l'impôt d'occupation soit payé. Et le 20 janvier 1871, à partir du 20 janvier, on entre dans les préliminaires de la rédaction de l'armistice. Le 22 janvier à Paris, des habitants excédés par la faim et les bombardements réclament l'élection d'une commune. Une fusillade éclate entre les manifestants et les gardes nationaux, qui fait 5 morts et 20 blessés. Et donc, pour en finir, le gouvernement demande qu'on en vienne à signer l'armistice, qui est signé le 26 janvier, appliqué aussitôt le 28.
Oui.
Seulement, il faut savoir que parmi les conditions de l'armistice, il y avait le désarmement de la capitale. Et c'est au moment où on veut récupérer les canons de Montmartre que ça tourne mal et que des généraux, le comte et Thomas sont tués et que la
Monseigneur Affre qui essaye de s'interposer et tuer lui aussi, c'est le début de ce qu'on va appeler la Commune insurrectionnelle de Paris.
C'est la Commune de Paris qui durera jusqu'au printemps et qui se conclura par ce qu'on a appelé la Semaine sanglante des 21-28 mai, où quasiment la totalité des bâtiments officiels de Paris sont livrés aux flammes, où l'armée légaliste, donc l'armée du gouvernement,
ce qu'on appelle les Versaillais,
voilà, donc l'armée républicaine, reprend rue par rue la capitale. Et la répression de la Commune sera extrêmement sanglante. On évoque 30 000 morts, des dizaines de milliers de déportés en Nouvelle-Calédonie et en Algérie.
Oui.
Voilà en fait comment se termine donc cette guerre, commencée par un empire, terminée par une république, mais qui va créer dans les mentalités françaises des blocages, des traumatismes très importants. Alors, si on peut en évoquer trois.
Oui.
Tout d'abord, une haine du Boche, l'Allemand, qui ne fera que croître. Cette haine du Boche qui se concrétise par un désir et une recherche de la revanche militaire. Ensuite, ça va générer chez les Français, chez les hommes, les garçons français, des vocations d'officiers par centaines pour justement préparer cette fameuse revanche. C'est aussi très concrètement la naissance des premiers monuments aux morts, avec la création d'une association, le Souvenir français. Et parce que jusqu'à cette guerre, les victimes, les combattants étaient enterrés sur place.
Oui.
N'importe où,
oui.
Dans les cimetières villageois ou pas. Enfin, là, on commence à partager l'idée qu'il faut rassembler les sépultures dans des lieux de mémoire, des monuments, et aussi même dans les provinces perdues, donc par exemple les Allemands, en Alsace et en Moselle, vont créer des cimetières français.
D'accord.
Enfin, des cimetières, des enclos, sans même parler de cimetières, des enclos militaires qui vont devenir donc des carrés. Militaires. Les premiers sont nés à cette époque-là.
Très bien. Bah, écoutez, monsieur Vigoureux, merci pour ces brillantes explications qui nous permettent quand même de mieux connaître cette guerre de 1870-1871. Donc, création de ce qui va devenir, en fait, nos monuments aux morts. Alors, à Bourges, c'est le monument qu'on appelle de Place Sérocourt, que l'on appelle...
Le monument de l'homme taureau.
Le monument de l'homme taureau.
Mais on en a un aussi, au cimetière.
Oui, dites.
Saint-Lazare. Oui.
Au cimetière Saint-Lazare.
Voilà.
Il est évident que les conséquences de cette guerre de 1870-1871 sont terribles et elles préparent déjà le futur conflit que nous aurons 40 ans plus tard, en 1914.
Oui, et n'oublions pas que de 1870 à 1914, chaque année pour la commémoration des combats de 70.
Oui.
Place de la Concorde, la foule se rassemble autour des statues de l'Alsace et de la Lorraine qui sont voilées de noir. N'oublions pas que deux générations de Français vont apprendre la géographie française avec une carte sur laquelle les deux provinces perdues sont en noir.
Oui.
Donc, si vous voulez, c'est un conditionnement mental des Français, qui fait qu'en 1914, tout naturellement, on trouve logique de partir à la guerre pour récupérer les provinces perdues. Il serait intéressant un jour de parler de la façon dont la France a récupéré ses provinces perdues, parce que ce n'était pas acquis pour les Alliés, notamment pour les Américains et pour les Anglais.
Tout à fait. Merci encore pour vos explications et à très bientôt. Monsieur Vigoureux. Merci.
Merci.